France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Vous. Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Être acteur, disait Louis Jouvet, c'est renoncer à d'autres hypothèses de vie. Ça lui va bien, à lui, l'acteur total, le plus célèbre en Italie, dont il est devenu l'incarnation, et reconnu depuis Il Divo dans le monde entier. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine et bienvenue à tous.
Fascinant, complexe, ambigu, caméléon et napolitain. Tony Servillo, 40 ans de carrière et 40 films, une présence immédiate, un jeu souvent froid et contrôlé. Nous l'avons rencontré à Turin alors qu'il tourne son 7e film avec Paolo Sorrentino. Tony Servillo incarne un politicien corrompu dans Lettres siciliennes de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, une réflexion sur la culture mafieuse à l'affiche des mercredis prochains. Pour évoquer ce film et cet acteur immense, un grand spécialiste. Bonjour Jean Gilly.
Bonjour.
Historien et auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma italien. Enfin, nous évoquerons les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma, d'un village aux portes du paradis, un voyage avec mon père. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
À questa domanda, da ragazzi, i miei amici davano sempre la stessa risposta. La fessa. Io invece rispondevo, l'odore delle case dei vecchi. La domanda era, che cosa ti piace di più veramente nella vita? Ero destinato alla sensibilità. Ero destinato a diventare uno scrittore. Ero destinato a diventare Jep Gambardella.
Giuseppe Gambardella, écrivain, journaliste romain, dandy, vieillissant, conscient de son talent, mais qui le gaspille avec légèreté. C'est Tony Servillo dans La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, un de ses rôles les plus célèbres. Si en France, on ne mesure pas forcément qui est Tony Servillo, en Italie, c'est le plus grand acteur vivant. Un acteur avant tout de théâtre, il a monté sa première troupe à 18 ans, et un acteur avant tout napolitain, Jean Gigli. C'est important cette notion, napolitain.
Oh, je dirais que c'est essentiel quand on pense au travail qui a été fait dans le théâtre napolitain, qui voit aussi des créateurs comme Mario Martone, qui est également une grande figure du spectacle italien.
Oui.
Ils sont tous plus ou moins les enfants de Filippo.
Eduardo De Filippo.
Eduardo De Filippo, pour lequel il y a des images qui le voient avec Laurence Olivier, quoi, où il s'embrasse littéralement. Quoi, c'est-à-dire, il se considère d'une part la tradition shakespearienne, d'autre part la tradition napolitaine. Hein, la tradition napolitaine qui est au niveau de Shakespeare.
C'est-à-dire
reconnu comme.
Servillo, il dit c'est la comédie française à ciel ouvert.
Oui, Naples. Oui. Naples, c'est la comédie française à ciel ouvert. C'est-à-dire, c'est... aller à Naples, c'est un choc. Hein. C'est un choc émotionnel. On est surpris par le bruit, par la musicalité, parce que c'est un bruit, c'est pas un bruit désagréable. C'est une présence qui est là et qui fait que c'est une source d'inspiration. Et parmi eux, il y a quelqu'un...
C'est un théâtre dans la rue, quoi.
Théâtre dans la rue. Ouais. Vittorio De Sica, quand il tourne lors de Naples, où il révèle Sophia Loren, il est totalement immergé là-dedans, quoi. Hein. Donc c'est une culture en soi, quoi. En France, on comprend mal cette situation où on est davantage habitué à une sorte de culture unitaire. Bon. En Italie, la culture, elle n'est pas unitaire. Elle est riche, diverse, multiple, et entre l'extrême nord et l'extrême sud, hein, faut pas oublier qu'on va des Alpes à la Tunisie au point de vue de l'altitude. Chacune de ces villes, chacune de ces régions a ses traditions, et ça se répercute d'abord dans le théâtre, longtemps dans le théâtre, et puis aussi dans le cinéma où on tourne maintenant en dialecte. Pendant longtemps, on doublait en Italie. Maintenant, on tourne en dialecte, et avec le dialecte, on arrive à faire passer une autre culture que la culture dominante, qui est la culture italienne, bien entendu.
Servillo au théâtre, où il poursuit une carrière qu'il n'abandonnera jamais. Mmh. Avant cette émission, vous nous disiez que pour La Grande Bellezza, quand il a reçu l'Oscar en Amérique, il est venu 48 heures parce qu'il y avait une relâche de son théâtre, mais il n'abandonnera jamais le théâtre.
Non, mais il a réussi cette prouesse physique de voyager en première classe et d'avoir le confort le plus...
C'est important.
Mais il est descendu de l'avion et parti tout de suite reprendre la pièce qu'il était en train de représenter.
Est-ce qu'en France, on pourrait le comparer, par exemple, à quelqu'un comme Michel Piccoli, qui a aussi partagé son temps entre le théâtre et le cinéma?
Oui, je pense qu'il faut le comparer au plus grand.
Oui, hein, ouais, bien sûr.
En termes de notoriété, c'est encore plus fort que Piccoli. C'est un niveau de star que Piccoli, hélas, n'avait pas en France. Ouais. Mais on a du mal à se représenter ce qu'est effectivement Servillo en Italie.
Et c'est vrai qu'on comprend mal le degré de notoriété et de présence de Tony Servillo en Italie.
Oui. Ouais.
Parce que y a certainement quelque chose qui fait que sa présence... Et puis le fait d'être napolitain, on revient toujours à cette question, le fait d'être napolitain est une espèce de viatique qui le conduit dans la culture italienne. C'est-à-dire même les non-napolitains reconnaissent que un peu d'eux-mêmes, un peu de leur sensibilité, un peu de leur culture vient de Naples.
Tony Servillo n'a jamais été un jeune premier au cinéma, ce qui l'a vacciné, dit-il, des illusions du succès facile et de la vanité. Non, mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Il rencontre Mario Marton, donc dans ce collectif justement napolitain.
Le Teatri Uniti. Qui réunit trois troupes de théâtre.
C'est ça, et des cinéastes, et des acteurs, et des plasticiens. C'est un groupe très important. Il rencontre Mario Marton, qui lui propose, donc, quand il a 33 ans, son premier rôle dans Mort d'un mathématicien napolitain, les derniers jours d'un savant qui a mis fin à ses jours en 59.
Oui, qui était Cacciopoli, un mathématicien de renommée mondiale.
Ouais. Et puis il rencontre, un peu plus tard, un jeune garçon qui arrive vers lui, qui a une petite boucle d'oreille dans l'oreille, un petit anneau, qui s'appelle Paolo Sorrentino. Ils vont devenir extrêmement proches alors qu'ils n'ont pas du tout le même âge. Lui aussi, il est napolitain. Il lui propose au début des années 2000 L'homme en plus. En fait, c'est pas le premier film qu'on découvrira. Nous, on commencera en France par Les conséquences de l'amour.
Il va à Cannes, qui est reconnu, il est tout de suite présenté au Festival de Cannes.
Alors, il joue dans ce film un homme reclus dans un hôtel en Suisse, 8 ans sans parler à quiconque, à qui que ce soit. L'homme a un secret, il a déjà un jeu froid, très contrôlé. Sorrentino lui offre une mort absolument atroce, qu'il traverse imperturbable. En fait, nous, on est tous fascinés par cet acteur. Tout le film tient sur lui.
Oui. Alors, tout le film repose sur lui, ça c'est vrai. Ce sont ces acteurs qui ont une telle présence que dans le fond, il suffit de leur donner un texte, ils l'apprennent.
Oui.
Des mémoires, ces grands acteurs ont des mémoires étonnantes. Et ils nous le restituent, c'est surtout ça. Quoi. Ce sont des sortes de passeurs. Ils sont traversés par le texte, ils l'absorbent et ensuite ils le redonnent. Et cela, immédiatement, donne une force exceptionnelle au texte qu'ils interprètent.
Quoi. Ouais.
On peut dire que... Il y a là... Moi, j'ai toujours pensé, aussi bien au théâtre qu'au cinéma, que les grandes réussites sont souvent la rencontre de plusieurs personnes. Ça ne repose pas sur une seule... Donc, ça ne repose pas seulement sur les épaules d'un comédien,
non.
Ça repose aussi sur les épaules... d'un metteur en scène.
Voilà, c'est un duo. Alors, il y a eu le duo Fellini-Mastroianni, et là, on peut dire que le grand duo des années 2000, c'est Sorrentino avec Servillo. Et notamment, on va vous passer un petit extrait. Dans ces deux films, où il a incarné deux hommes politiques, il a incarné dans Il Divo Andreotti, l'ex-chef de gouvernement qui, durant des décennies, a trôné en parrain de la politique italienne, et puis il a aussi incarné dans Il Oro Berlusconi. On va écouter parce qu'il y a une vraie différence de voix, de ton. Et ce ne sont pas des biopics, en fait. Ce sont les visions de Sorrentino sur ces deux hommes-là.
Guerre puniche a parte, mi hanno accusato di tutto quello che è successo in Italia. Nel corso degli anni mi hanno onorato di numerosi soprannomi. Il divo Giulio, la prima lettera dell'alfabeto, il gobbo, la volpe, il Moloch, la salamandra, il papa nero, l'eternità, l'uomo delle tenebre, Belzebù. Ma non ho mai sporto querela, per un semplice motivo. Possiedo il senso dell'umorismo.
Le televisioni non ti cercheranno più.
Non mi merito.
Gli alleati getteranno il discredito su di te. Io ti liquiderò con una battuta.
No, Silvio, non mi merito questo destino. Io mi sono fatto tutto da solo.
Col cazzo, Santino. In Italia, se c'è uno che si è fatto tutto da solo, quello sono io. Tu sei solo un volgare parassita della politica e mi hai rotto i coglioni.
Jean Gilly, dans ces deux films, Tony Servillo, il porte des masques, en fait. Pour Andreotti, il s'est complètement transformé. Il a cassé ses oreilles, enfin, il a retourné ses oreilles. Il a une silhouette complètement courbée, comme une vieille marionnette. Et dans Silvio, il a affaire des super UV, les cheveux en arrière gominés. Enfin, c'est un acteur de masque.
C'est aussi un acteur de masque. Moi, j'ai eu la chance d'aller sur le tournage de Loro.
Oui.
Et de le voir... dans les pauses de prise de vue.
C'est Silvio et les autres, en fait, en français. Loro, oui.
Loro, c'est Silvio et les autres, oui. Et il avait cette capacité à entrer dans le personnage, à être le personnage. Il y a une séquence où il vend par téléphone un appartement à un acquéreur dans le complexe immobilier qu'il est en train de construire.
Ouais.
Et c'est sidérant, c'est fascinant. On a presque l'impression qu'on est prêt à sortir son carnet de chèques pour participer à l'achat de l'appartement. Quoi, hein. Parce que sa présence est telle. Et le voir jouer et puis assister à, quand il s'est démaquillé en fin de prise... J'ai assisté à... il a enlevé son maquillage, il a repris son apparence normale, enfin normale, naturelle, disons. Et c'était quelque chose de fascinant. Parce qu'il avait cette aptitude, cette capacité, ce transformisme.
Ouais.
Et là, nous avons entendu seulement la voix.
Oui.
Hein, sans voir l'image, mais seulement avec la voix, on sentait la différence et la recréation d'un personnage.
La mafia en Italie, Servillo l'a incarné, notamment dans Gomorra, où il joue un pourri appointé par la mafia napolitaine pour acheter des terrains ou entasser des déchets toxiques. Mais surtout, Servillo est à l'affiche de ses Lettres siciliennes, qui sortent mercredi prochain, de Fabio Grassandonia et Antonio Piazza. C'est le troisième opus de leur triptyque, donc après Salvo et Sicilian Ghost Story. C'est une réflexion sur la culture mafieuse. En deux mots, inspiré par un fait divers très connu en Italie, c'est la cavale d'un puissant boss de la Cosa Nostra, c'est Matteo Messina Denaro, capturé en janvier 23 après 30 ans de cavale. Le parrain, incarné dans ce film par Elio Germano, est caché dans l'appartement d'une femme que la mafia fait chanter. En face, il y a Catello, c'est Tony Servillo, prof et homme politique, proche jadis du père mafieux, qui, une fois sorti de prison, est abordé par les services secrets pour aider à la capture de Matteo, en échange d'un permis de construire pour faire un hôtel en dehors du droit. On écoute un petit morceau du film.
Dicono che la felicità per i buoni c'è. Ma che lo stabilisce quali sono i buoni e quali sono i cattivi?
Non sei più preside, Catello. Dopo il tuo arresto sei stato espulso persino dalla massoneria. Sei morto, come il tuo amico Don Gaetano.
Io sono una vittima, io sono innocente.
Rischi.
Siete dei servizi.
L'ultimo grande latitante di mafia ancora in circolazione è suo figlioccio.
Noi lo crediamo ancora in Sicilia e vogliamo che lei ci aiuti a catturarlo.
Scrivo. Non più d'un foglio.
Jean Gilly, ses Lettres siciliennes, c'est un travail, un film très contemporain sur la mafia, hein, et qui détonne par rapport aux autres. Elle n'est pas, absolument pas romantisée.
Non, c'est... Je crois qu'il faudrait, mais évidemment, c'est un peu... On peut aussi ne voir que ce troisième épisode. Il faudrait s'immerger dans cette culture mafieuse, dans cette culture sicilienne où la mafia est omniprésente, pour, en ayant vu les deux premiers opus, découvrir avec le troisième une nouvelle variation sur ces rapports entre la criminalité organisée, ici joué par un boss qui est Elio Germano,
ouais,
qui est un autre de ces grands acteurs.
Très
il
grand
y a
acteur.
Actuellement en Italie, avec Gifuni par exemple, un nombre d'acteurs de très grande qualité et qui souvent pratiquent également le théâtre. C'est-à-dire c'est un peu... un élément qui nourrit leur invention vis-à-vis du langage et vis-à-vis de manière d'utiliser le corps. Quoi. Et dans cette culture méditerranéenne, puisqu'évidemment ça ne se passe pas en Norvège, hein, ça se passe à Naples,
ouais,
hein, dans cette culture-là, il faut de très grands acteurs pour arriver à représenter ça. Quoi. Et on comprend que Tony Servillo soit finalement appelé, bien qu'en réalité, il pourrait ne faire que du théâtre, ou il pourrait aussi ne faire que du cinéma. Hein. Bon, sa richesse expressive est telle qu'il peut se plier à tous les rôles. Il peut, dans ce film-là, dans ce film qu'on va découvrir maintenant, qui arrive en France, on peut, dans ce film-là, regarder un acteur au travail. Quoi.
Oui.
Regarder un acteur au travail. Et je dirais qu'il faudrait, pendant le film, à certains moments... fermer les yeux, quoi. Uniquement pour écouter, quoi. Parce que les intonations, et on l'a bien entendu dans les extraits que vous nous avez passés, Tony Servillo joue de sa voix comme d'un instrument de musique.
Et ces deux cinéastes, ils réactualisent un peu le travail de Francesco Rosi. Hein,
mais... Alors bien sûr, sur le thème, dans ce dernier film, le thème central, c'est la collusion entre la politique et... les mafieux.
Où l'État offre sa protection aux parrains, carrément.
Et qui offre la protection aux parrains, absolument. Ouais. Quoi. Donc, cette situation exceptionnelle qui fait que... Bon, les boss finissent par tomber. Quoi, hein. Le thème du film, c'est quand même les boss finissent par tomber. C'est-à-dire parce qu'on réussit à obtenir la collaboration d'hommes politiques qui ont approché la mafia.
On va pas trop dire, ouais. Mais en tout cas, sur la réclusion, c'est intéressant, hein, sur la réclusion du mafieux qui vit dans cette maison, qui est très cultivé finalement, puisqu'il passe 30 ans à lire des livres, à voir des films. Cet homme a vraiment existé. Oui, et oui, c'est intéressant, il y a cette correspondance archaïque dans les petits papiers, mais en même temps, il y a cette grande culture aussi que peuvent avoir certains mafieux.
Parce que la culture sicilienne est une immense culture.
Voilà, ouais.
Donc, ils baignent dans cet humus qui nourrit leur propre réflexion, quoi.
Tony Servillo n'est pas en France pour la sortie de Lettres siciliennes, alors nous sommes allés jusqu'à lui, à Turin, où il tourne en ce moment son 7e film avec Paolo Sorrentino, La Grazia, la Grâce, une histoire d'amour, mais bon, à sa façon, j'imagine. Je l'ai rejoint à son hôtel à la fin d'une journée de tournage, pas facile, m'a-t-il avoué, et pourtant il a fait l'effort de parler en français de ce film et de son métier, le voici, avec parfois l'aide de Sara Cuminetti.
Il padre era tutto per lui e ora l'ha perso. Questo è il suo unico punto debole.
E quello che ti dico è che facciamo. Non è parlare con molto.
La situazione è troppo rischiosa. Nessuno deve sapere che tu hai ricevuto questa lettera.
Mio padre tante cose mi insegnò. Ma essere sparatoso, no.
Bonjour Tony.
Bonjour.
Le film Lettres siciliennes commence avec cette phrase: la réalité est un point de départ, pas une destination. Ça veut dire qu'on s'inspire de la réalité pour arriver à la fiction, mais c'est aussi comme un conseil pour un acteur, pour vous, de dire ton personnage a existé, mais tu en fais ce que tu veux.
C'est un personnage qui existe à partir de la réalité. Mais l'imagination des scénaristes, des metteurs en scène, a réalisé quelque chose qui intensifie la réalité, comme doit être, selon moi, pour le théâtre, pour le cinéma, non? Donner pas une vision de la vie telle qu'elle, mais intensifier la réalité pour donner l'évidence de ce qui passe dans le film, non, qui est une histoire tragique et grotesque au même temps, non? Mais quelquefois, la dimension grotesque donne une sensation plus forte de la tragédie, non? Plus émouvant, non, de la tragédie.
Cet homme a existé, c'était le patron du cinéma de la petite ville. Comment vous vous êtes raconté cet homme-là?
Je n'ai pas l'habitude de faire une préparation comme les comédiens américains. Et je dis ça avec beaucoup de respect et admiration pour les comédiens. Mais nous avons une autre école.
C'est quoi ?
Il y a la documentation, il y a l'observation de la réalité, mais beaucoup c'est le jeu, l'intuition, le désir de jouer, de faire des personnages qui sont amusants ou des personnages qui sont terribles, mais avec plaisir, non ? Et le même plaisir du comédien, c'est contagieux, non ? C'est
contagieux
pour le public.
Est-ce qu'on peut dire que ces deux metteurs en scène, Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, c'est un peu les héritiers modernes d'un grand cinéma engagé ?
Mais sûrement, ils ont eu dans leur réalisation beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Parle de la mafia comme personne parle en Italie. Il y a l'habitude de faire des personnages de la mafia comme s'ils sont des westerns avec la...
Des héros, des
modèles, des idoles, non ? L'or, surtout avec ce film, on a eu le courage de désacraliser les idoles de la mafia, non ? Et ça, c'est très important et c'est très courageux.
Mais est-ce que votre personnage, il n'est pas pire qu'un mafieux ? Parce qu'il est très politique, en fait. Il profite de tout le monde. Il ment à la mafia, il ment à la police, il ment à sa femme. Il est terrible, votre personnage aussi.
Oui, il a une autre manière qui n'est pas criminelle, n'est pas, il n'est pas seulement un assassin. Avec lui, la mafia a changé sa manière d'agir. Et c'est lui, selon les étudiants du phénomène de la mafia, c'est avec lui qui commence une autre manière d'agir, plus mystérieuse, mais d'affaires et de négociations économiques, et pas tuer seulement, pas être seulement des assassins.
C'est important à travers vos rôles d'incarner des périodes de l'histoire de votre pays. Être un acteur en Italie, c'est très particulier quand même, parce que ça veut dire qu'on raconte à travers ses rôles l'histoire de son pays.
Je crois qu'avec ce film, avec le Divo de Sorrentino, avec Gomorra de Matteo Garrone...
Avec l'oro,
on peut avoir une image de ce qui est passé en Italie. Par exemple, deux films de Sorrentino, le Divo et l'oro... On peut voir que les hommes de la politique ne sont plus des hommes qui font leur affaire dans les palais, qui sont fermés. Mais avec Berlusconi vient dans la politique le spectacle. Non ? C'est une chance très beau pour moi de donner surtout alles prochaines générations la possibilité avec le cinéma d'avoir une
photographie,
à travers les yeux des metteurs en scène, parce que tous ces films ne sont pas des biopics, mais sont des films où les protagonistes, Andreotti ou Berlusconi, sont les symboles d'un grand changement dans la politique italienne.
Oui. C'était votre version d'Andreotti, c'était votre version de Berlusconi.
Oui, exactement, parce que j'épouse la vision du metteur en scène et je montre cette vision à travers mon travail de comédien.
Comme Jouvet, vous pensez que la vocation n'existe pas ?
Oui, quelquefois, la vocation, c'est un aspect du métier de comédienne, mais aussi de l'autre métier, un peu romantique. Il y a une phrase de Jouvet.
Être acteur, c'est renoncer à d'autres hypothèses de vie.
Exactement. Et ça, je trouve que c'est une phrase très, très importante qui donne une sensation du comédien comme un poète qui donne au spectateur sa vision du monde. Et ça appartient seulement à des comédiens très particuliers.
Il dit plein de choses, Jouvet, mais il dit « Comédien, tu n'incarnes rien, tu es plus ou moins incarné par. Tu n'es plus toi-même, mais seulement le mannequin se vide. » Vide-toi de toi-même. Vous êtes d'accord avec tout ça?
Je suis d'accord. Il ne donne pas à la comédienne une méthode pour jouer. Il, après toute sa vie donnée au théâtre et au cinéma aussi, mais surtout au théâtre, il donne à nous la sensation que le théâtre, le métier de comédien, reste un mystère.
Oui, mais vous, vous, Tony, quand vous jouez, vous vous videz de vous-même quand vous jouez un personnage.
Je crois que la condition fondamentale pour un comédien au théâtre, au cinéma, c'est de s'abandonner à ce qui passe. Disfarsi se stesso vuol dire che si in ciò di cui ci si disfa può restare qualche traccia, ma è tanto più efficace l'interpretazione di un attore quando lo spettatore ha la sensazione di questo piccolo sacrificio, cioè che ci si è disfatti di se stessi.
Mais en effet, alors quand on se défait, on se vide de soi-même, alors on peut... Il y a des traces qui peuvent rester peut-être, mais on est efficace là où le public voit vraiment qu'il y a eu un sacrifice, que l'acteur a fait un sacrifice en se vidant de cette façon.
Est-ce que jouer, c'est une soustraction ?
C'est un métier, et tout le métier a le désir d'avoir un grand effet émouvant, l'expression, avec des petits effets. Oh, ça ne doit pas être une idéologie.
Non.
Parce qu'il y a beaucoup de comédiens de la jeune génération qui ne jouent pas, qui parlent comme dans la vie, non? Alors, les grands comédiens... Alors, par exemple, on ne peut pas faire le personnage de Catello... Parce que c'est un cabotin, non?
Oui.
C'est un cabotin, elle doit être représentée comme un cabotin.
Un jour, Jean-Louis Trintignant m'a dit que sur le premier film de Jacques Audiard qui s'appelait « Regarde les hommes tombés », il joue un type terrible. Et il est resté terrible avec tout le monde pendant tout le tournage, il me l'a avoué. Et le jour d'après, il est redevenu gentil Jean-Louis Trintignant.
Après la fin du tournage.
Est-ce que vous, vous pouvez être pris dans un rôle au
Alors,
point...
C'est la même chose qu'il a dit et que tout le monde dit de Gianmaria Volonté. Tous les amis de Gianmaria Volonté que j'ai eu la chance de rencontrer m'ont dit que pendant le tournage, il est le personnage. Il parle, il mange, il dort, il vit comme le personnage. Il y a une obsession, il y a un rapport intime avec le personnage. Mais pour moi, il est toujours assis
à côté.
Il est toujours avec moi, mais c'est pas moi. Parce que pour moi, c'est comme je... il est à côté, il ne doit pas être derrière moi, il ne doit pas être avant moi. Il doit être toujours à côté de moi. Et les personnes qui sont très proches en comédien pendant cette période, ma femme par exemple, ils le rencontrent. Mais ça aussi ne doit pas être une idéologie, non? Parce que c'est comme un peintre qui est souvent dans son atelier, mais... il quadro è davanti a lui o l'écrivain qui est avec les pages les... Nous sommes avec nous et avec un'altra persona ancora e ils sont là et quand on doit être ensemble je prends la main du personnage et je vais
et donc votre femme a de la chance elle a rencontré Andreotti elle a rencontré Berlusconi
la pauvre
dans le film je ne sais plus qui demande si on vous demande à vous quelles sont tes valeurs dans la vie? On vous demande ça dans les lettres siciliennes. Et donc, moi, je vous demande, Tony, quelles sont vos valeurs dans la vie?
Pour moi, c'est très important donner l'impression à qui, à les autres, d'être pareil à ce que je fais. Ce que je fais me ressemble. Ça, c'est très important pour moi, non? Et normalement, j'ai de l'admiration pour les hommes ou les femmes qui ne jouent pas un rôle dans la vie. Son métier, c'est exactement
ce qu'il est. Vous tournez un film avec Sorrentino qui s'appelle La Grâce. Je ne vais rien demander parce que non, tout est secret. C'est pas le truc. Non, mais parfois on dit ce comédien a la grâce, ou on peut ressentir la grâce. Est-ce que sur des scènes, parfois, en jouant, vous sentez que vous avez la grâce?
La grâce, ils sont des choses trop, pour moi, trop romantiques, trop idéales. Il y a la possibilité que la combination d'un grand metteur en scène, d'un comédien, d'un personnage très bien écrit, oui, donne au spectateur la sensation de regarder un miracle. Mais le vrai miracle, c'est la combinaison de toutes ces choses ensemble, quelquefois nous ne savons pas de quelle partie viennent, de la tête, de l'attitude du comédien, de la tête du metteur en scène, de le goût de l'un pour l'autre, non? C'est un mystère, je crois en ce mystère-là.
C'est drôle, en posant la question, je me dis, ça serait très mégalo de répondre « Oui, j'ai la grâce, non, effectivement, non, ouais, oui, non, c'est
Jouvet
vrai. »
Jouvet disait qu'il déteste les comédiens qui disent « Après la représentation, ce soir, Dieu, c'est avec moi. » Non? Et ils disent « Ce comédien-là sont des cabotins. » Non? Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai.
La modestie de Tony Servillo, on dit minimaliste magistral, c'est un peu ça.
Oui,
hein.
C'est un peu ça, tout à fait. Moi, je pense aussi à De Sica,
oui,
qui était un immense acteur, et qui était admiré par Bertolt Brecht, qui le citait un exemple à ses étudiants. Brecht disait, De Sica essayait d'imiter De Sica, c'est-à-dire la capacité qu'il avait d'être à la fois le personnage et d'être hors du personnage et de le regarder, en quelque sorte de se regarder, en train de jouer. Et donc on est là, c'est autre napolitain par ailleurs, en passant, dans une espèce d'excellence qui fait que l'exemplarité est devant nous, quoi.
D'ailleurs, vous avez écrit un livre sur De Sica, qui s'appelle De Sica, Vittorio De Sica, le chemin du réalisme chez Rouge Profond. Tandis que Tony Servillo et tous ses masques incroyables est à l'affiche de Lettres siciliennes de Fabio Grassandonia et Antonio Piazza, une nouvelle vision de la mafia dans cette comédie noire et qui sort mercredi prochain. On se retrouve pour les sorties après Pierce Faccini, If Nothing Is Real.
He caught me whispering to myself, finding somewhere that I can be, for something that I see in you, for someone that you would see in me. Nothing is real, and nothing is true, and nothing is real. Today you are turned away from you.
True, when nothing France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Laurent, on va parler des sorties Christine. La semaine. On va commencer par le village aux portes du paradis de Moharaoué, un petit village du désert somalien, torride et venteux. Mamar Gad, père célibataire, cumule les petits boulots pour offrir à son fils Sigal une vie meilleure. Alors qu'elle vient de divorcer, sa sœur revient vivre avec eux. L'amour, la confiance et la résilience leur permettront de prendre en main leur destinée. Une réflexion, vraiment un refus du misérabilisme au plus près de ces personnages aimés à égalité, la beauté stupéfiante des images, un cinéaste né.
Mais oui, découvert à Cannes l'an dernier, et le film est vraiment resté dans nos mémoires, oui. Je crois. Il commence par une attaque de drones en territoire somalien, donc on a presque l'impression d'être plongé dans un film d'action, et puis évidemment, ça débouche sur tout autre chose, puisqu'il se recentre, ce film, sur le village d'à côté, ses habitants, et le cinéaste a manifestement un sens inné du cadre et de la nécessité de dire, avec les images, ce que les mots empêchent et pudiques ne peuvent exprimer. Alors on évoque la fable avec un peu de facilité, le mélo, parce que on n'a pas d'autres mots sous la main, mais c'est plutôt d'humanité dont il faudrait parler, comme si sous le soleil de Somalie, le cinéma pouvait presque tout.
Ça s'appelle Le village aux portes du paradis de Moharaoué. Berger de la québécoise Sophie de Rapp. Sur un coup de tête, Mathias troque sa vie publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence. Il espérait trouver la quiétude, il découvre un métier éreintant et des éleveurs souvent à bout. Mais quand il rencontre Élise, qui elle aussi vient de tout quitter, il se voit confier un troupeau de 800 moutons et s'engage dans une transhumance. Ensemble, ils vont traverser les épreuves de la montagne et se façonner une vie nouvelle, adaptée du roman de Mathias Lefébure. Un regard lucide sur le métier, son âpreté, une ode aussi à la montagne et au berger. Beau mais pas esthétisant et un très grand succès au box-office québécois, alors.
Il paraît. Alors, oui. Ça commence comme un doc, hein, comme un documentaire, et on se dit, tant mieux, parce que tout fait vrai, tout sonne vrai dans cette ville d'Arles, entre Pierre et Soleil, et cette figure d'un Québécois un peu benêt qui cherche à devenir berger. Mais vraiment, c'est un propos très documentaire. Et puis, malheureusement, on s'aperçoit que c'est une fiction dans laquelle on croise des très très bons acteurs, comme Guylaine Londez ou Bruno Raffaelli, et qui prennent l'accent du Sud, et qui deviennent des paysans absolument caricaturaux. Là, on se dit, c'est pas possible, quoi. Il faut pas tenter le diable à ce point-là. Alors, reste des moutons et des paysages, évidemment, effectivement, à couper le souffle. C'est quand la fiction rend les armes que Berger se fait fascinant.
Mikado de Baya Kasmi. Mikado et Laetitia vivent avec leurs enfants sur les routes, c'est Félix Moati et Vima Laponce. Une panne de moteur les amène à s'installer le temps d'un été chez Vincent, c'est Ramzi Bedia, un enseignant qui vit seul avec sa fille. C'est le début d'une parenthèse enchantée qui pourrait aussi bouleverser l'équilibre de toute la famille, alors que Nuage, leur fille aînée, se prend à rêver d'une vie normale, l'utopie d'un père, celle d'une famille, libre dans la nature. On sent l'ombre de Captain Fantastique, sauf que la comparaison est un peu dure. Ce mélo lumineux, comme j'ai pu lire, me semble invraisemblable, comme ces personnages à propos desquels on ne ressent bizarrement pas d'empathie, ni marquant, ni abouti. Les intentions sont bonnes, sans doute, mais le résultat n'est pas crédible.
Alors, vous savez, on connaît le jeu du Mikado, hein. On s'est un lancer aléatoire dans le plus grand désordre de petits bâtonnets et la nécessité ensuite de gagner la partie sans faire bouger un seul élément. Je viens de résumer la règle du Mikado. Au fond, ce pourrait être un bon résumé de la démarche scénaristique de Baya Kasmi. Feindre l'amour du plus grand désordre pour ne rien bouger au bout du compte. C'est ce qui se passe dans ce film où tous les éléments narratifs sont finalement très attendu, et le tout, vous le disiez, avec quelques invraisemblances à la clé, voire quelques facilités. C'est très dommage.
À la lueur de la chandelle d'André Gilles Mata, au nord du Portugal, deux femmes partagent leur quotidien depuis 60 ans, dans une maison qui semble encore habitée par les générations qui les ont précédées. Il y a Alzira, la maîtresse des lieux, qui s'est consacrée à un mari austère, renonçant à son goût du piano et de la peinture, puis Béatrice, la domestique, qui a dédié sa vie à l'entretien du lieu et aux enfants d'Alzira. Laquelle, Alzira, libérée par la mort l'enterrement de son mari, prend pour la première fois une décision qui n'appartient qu'à elle. Un film sur le temps et la mémoire, avec une exigence narrative et formelle, et dont le rythme fait penser au cinéma de Chantal Akerman.
Oui, alors vous nous disiez hors micro, Jean Gilly, que vous aviez envie de voir le film, bah vous avez bien raison. Parce que un cinéaste qui revendique, je dis bien qui revendique l'influence de Duras, Bergman, Tarkovsky, Akerman et Oliveira, entre autres, ne peut pas être foncièrement mauvais. Je répète qu'il se réclame d'eux, mais qu'il ne dit pas qu'il fait comme eux, évidemment. Donc il y a beaucoup d'humilité dans cette façon de revendiquer des filiations. On pense beaucoup à Jeanne Dielman aussi, mais rassurez-vous, le film dure moins de 2 heures, et c'est un formidable portrait de femme tourné en 16 mm qui prend son temps, notamment qui prend le temps des saisons. Il y a 4 parties, 4 saisons. Alors, amateur de grosses machines trépidantes, ben, vous passez votre chemin. On peut vraiment lui préférer ce poème délicat et doux, avec une sorte de parti pris des choses dont il aurait du coup pu aussi aller lorgner du côté de Francis Ponge.
Ça s'appelle À la lueur de la chandelle. Absolument. Voici Voyage avec mon père de Julia Van Heinz. Une journaliste new-yorkaise propose à son père rescapé des quand un voyage en Pologne, son pays d'origine, elle cherche à comprendre l'histoire de sa famille, tandis que lui n'a aucune envie de déterrer le passé. C'est avec Lena Dunham et Stephen Fry. Un mois après la sortie de Real Pain de Jesse Eisenberg, un autre road movie sur la mémoire de la Shoah, Voyage avec mon père, souffre de la comparaison moins subtile, plus sentimentaliste, avec pas mal de situations répétitives, mais une note assez juste sur la restitution forcée des objets familiaux, Laurent.
Ah ben je serais pas, je ne serais pas tout à fait d'accord, parce qu'effectivement, il faut faire la comparaison avec le film Real Pain, en disant bien que les hasards du calendrier font que l'un est sorti avant l'autre, hein, mais ça aurait pu être exactement l'inverse, donc c'est pas, il ne s'agit pas évidemment d'un remake. De ce voyage à Auschwitz avec entre un père polonais et une fille américaine, moi ce que je trouve très très intéressant, c'est que sur un sujet aussi, pardonnez-moi l'expression, casse-gueule que le voyage à Auschwitz, eh bien, et donc l'évocation de la Shoah dans une fiction, ben, il me semble que le film parvient à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire à ne pas y aller totalement franchement et à s'interroger en permanence sur ce que ça veut dire que de traiter ce sujet. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il le fait de façon très très honnête.
Voyage avec mon père. Maintenant, Piégé de David Yarovsky. Un voleur s'introduit dans une voiture de luxe et se trouve piégé à l'intérieur. Il découvre que son énigmatique propriétaire en a le contrôle total et qu'il va exercer sur lui une vengeance diabolique. Thriller claustro, suspense, un vieux réac sadique en voix off, celle d'Anthony Hopkins, et une réflexion sur la justice et l'autodéfense, Laurent.
Écoutez, à part le gag de la musique tyrolienne considérée comme une torture au même titre qu'une décharge électrique, bon, ça c'est bien, mais il n'y a vraiment rien de léger dans ce très très lourd pavé sur le bien et le mal, la perte des valeurs, la responsabilité et la cupidité, et j'en passe, et des plus lourds encore, rien que ça, le tout avec effectivement une lourdeur éléphantesque. Comment tout ça se termine, je ne vous le dirai évidemment pas, mais croyez-moi, le metteur en scène a de beaux jours de moraliste à la petite semaine devant lui.
La jeune fille à l'aiguille, c'était à Cannes l'an dernier, du cinéaste suédois Magnus von Horn. Copenhague 1918, Caroline, une jeune ouvrière, lutte pour survivre alors qu'elle tombe enceinte. Elle rencontre Dagmar, une femme charismatique qui dirige une agence d'adoption clandestine. Un lien fort se crée entre les deux femmes et Caroline accepte un rôle de nourrice à ses côtés. C'est éprouvant dans sa trajectoire de la douleur, malaisant aussi, chargé dans ses effets sonores. Et finalement complaisant, non ?
Ben oui, c'est le troisième long métrage de ce metteur en scène qui se vit sans doute, sans aucun doute, comme le digne héritier de l'expressionnisme allemand, avec ses noirs et blancs et ses cadres radicaux en tête. Mais la comparaison s'arrête. Là, tant effectivement la complaisance et le voyeurisme sont à l'œuvre, c'est glauque, c'est noir, c'est cruel, sans autre raison qu'un élan morbide et absolument malsain.
Deux reprises. L'histoire du soldat, Laurent, c'est quoi ?
Ben l'histoire, alors c'est une vraie fausse reprise, parce que le film n'est pas sorti en salle en France.
Ah, c'est une animation.
Il est sorti en 1984, mais tenez-vous bien, c'est 55 minutes de pur bonheur d'après Stravinsky et Ramud, parce que les voix françaises, c'est Serge Gainsbourg, Henri Salvador, Michel Halberstadt, François Perrier en narrateur, Roger Carrel et notre Lucien Jeunesse National à France Inter. C'est extraordinairement beau et fantaisiste.
Moi, je suis très ravi de la ressortie de Brice Denise, Jean Dujardin, un déluge de vannes crétines qui marche toujours, plus l'abattage de cet acteur dans ce loufoque homme hommage à la vacuité. Les festivals en
spéciale dédicace pour vous, Jean Gilly, parce qu'on va dans votre ville natale, à Nice, du 11 avril au 16 novembre. Vous pouvez y découvrir l'exposition Le sport au cinéma, à l'honneur au Musée national du sport. Et c'est, c'est une très très belle réflexion faite par les Camille Père et Fils, qui avaient déjà commis un énorme livre sur ce sujet. Et cette fois, c'est une exposition qu'on vous conseille de découvrir à Nice.
À côté du stade.
Bon, voilà, vous savez où c'est, évidemment. Et puis, bon, sujet un peu plus lourd, à Paris, qui se souvient du génocide cambodgien? C'est le titre du cycle du Forum des images à Paris, du 15 avril au 4 mai. Évidemment, on y verra beaucoup, beaucoup des films de Ritipan, mais pas seulement.
C'est sous son parrainage,
absolument,
d'ailleurs.
Absolument, absolument.
On a un petit peu de temps pour les cadeaux.
Ouais, on est particulièrement gonflé en vous offrant un film italien, Jean Gilly, que vous avez vu, forcément.
Vous y avez pensé ?
Pardon ?
Vous y avez pensé ?
Jeunesse perdue, de Pietro Germi, oui, qui sort chez Tamasa. Oui, vous l'avez vu, d'accord, bon, très bien.
Non, mais c'est un film admirable.
On dit que c'est un polar néo-réaliste.
Oui.
C'est une bonne définition. Ça sort chez Tamasa, il y a, comme d'habitude, un petit livret et un bon bonus. On vous le recommande, évidemment, chaudement. Vous l'avez vu, vous le reverrez. Ce film français, vous l'avez vu, vous le reverrez aussi. Les Dames du Bois de Boulogne, tout autre chose. Robert Bresson, très très joli coffret chez Rimini, comme très souvent, avec là aussi des bonus, une interview de Robert Bresson à l'époque, une interview maintenant de Pierre Murat, et puis un documentaire tourné sous l'occupation par Jean-Olé Laprune, historien du cinéma. Voilà,
oui, l'occupation est un sujet passionnant, qu'on n'a pas
cinéma,
fini d'explorer.
Cinéma, tout à fait, absolument. Voilà, et on est très heureux de vous offrir ces deux cadeaux, Jean-Gilles.
Merci
à vous.
Régaler mes soirées.
Bon, tant mieux.
On va réannoncer effectivement la présence du grand Tony Servillo dans ses lettres italiennes de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, et qui sort mercredi prochain. Merci à Régine Vial, à Viviana Andreani et à Gustave Chaimi.
Merci
à notre belle équipe, Valérie Ayestaray à la réalisation, Louise Tempero préparation et Thierry Dupin programmation musicale.
Merci aussi.
Au revoir.
Salut.